Radio Foot International, spécial UEFA Euro 2024 avec Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International, doublement quotidien d'ailleurs. Nous sommes dans notre première édition et nous évoquerons ce match Espagne-Italia, le match du jour sur RFI comme en Allemagne. Cette affiche est un classique, un classico du football européen. C'est la 8e fois que la Roja et la Nazionale se retrouvent en phase finale d'un Euro depuis 44 ans et l'une des deux sélections pourrait se qualifier dès ce soir ou alors les deux conserver toutes leurs chances. Slovénie-Serbie, le duel des Balkans s'est achevé sur un match nul. Un nul qui arrange la Serbie, qui reste encore vivante dans la compétition, qui arrange sans doute moins la Slovénie. Et nous ferons le point sur ce groupe. Il n'y a pas que l'Euro dans la vie, il y a aussi la Copa América. La compétition débute la nuit prochaine aux États-Unis. 16 équipes en piste, 10 sud-américaines et 6 des Amériques. Les champions du monde emmenés par Lionel Messi ouvriront cette Copa América. Ce sera face au Canada et ce sera au milieu de la nuit si vous n'avez pas assez de football européen.
C'est ça en fait.
N'est-ce pas? Pas d'overdose. Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous regarderez le match à 2h du matin?
Non, pas du tout.
Hein? Pourtant,
on a la chance,
pourtant,
on a des redifs. On a des redifs, donc c'est bon.
Ça existe. Oui. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là, accompagné de Chérif Guémour. Bonjour Chérif.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Je me rappelle que pendant le confinement, on aurait rêvé de voir 5 matchs par jour. 4 dans la journée et 1 dans la nuit, rappelez-vous.
Ça aurait été pas mal.
On a pu faire la fine bouche.
Effectivement. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission et Donatien Caillou est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
E comunque secondo me 2-1 Italia domani.
Spero in un pareggio.
No estamos entre los favoritos, pero yo creo que podemos ser la sorpresa.
Hay buen equipo.
Willkommen in Deutschland zum Europacup.
Il n'y a donc pas d'euro sans une rencontre entre ces latins voisins par la Méditerranée que sont l'Espagne et l'Italie. Ces deux nations huppées du football continental se sont déjà retrouvées face à face 7 fois depuis 1980, 7 fois en 44 ans. La statistique trouvée grâce notamment au guide de notre ami Xavier Barré, ce guide de l'euro, il y a eu au bilan 4 nuls entre ces deux nations pour 2 victoires italiennes et 1 victoire espagnole. Alors, quelle victoire espagnole! Elle était écrasante et c'était en finale de l'Euro en 2012, il y a une douzaine d'années. Et c'était en Pologne, si je ne me trompe pas, cette finale d'un Euro qui s'était déroulée entre l'Ukraine et la Pologne. Je crois que ça avait commencé à Kiev et terminé à Varsovie par un 4-0. Mais la dernière fois, c'était à Londres en demi-finale. C'était il y a peu de temps, puisque c'était le dernier Euro. C'était en demi-finale et les Italiens, futurs tenants du titre, s'étaient qualifiés au bénéfice des tirs au but. Ce soir, pour notre plus grand plaisir et j'espère le vôtre, ce classico est, disons, la première grande affiche de l'Euro. C'est ce qu'on peut dire, Chérif Guémour, hein.
Oui, c'est le genre de match qu'on coche tout de suite parce que déjà c'est... Alors on va rappeler quand même que l'Espagne a déjà gagné 3 fois l'Euro, l'Italie 2 fois, donc on est vraiment deux poids lourds avec la France et l'Allemagne. Et que voilà, on était resté sur cette finale, le dernier Euro. Et surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces deux équipes qui ont changé, qui ont évolué. L'Italie est parfaitement maintenant à un style offensif. Alors, ils reviennent un petit peu, on va voir. Et on surtout, c'est l'Espagne qui s'est complètement reparamétré, qui s'est complètement métamorphosé. On va en parler après.
Eh bien, justement, on va en parler parce que ce match aura lieu dans l'enceinte du stade de Gelsenkirchen, sur une pelouse qui est habituelle pour le club de Schalke 04, en Bundesliga. Et au bord de cette pelouse, nous avons nos deux envoyés spéciaux, Antoine Grognier et Carlos Pizarro. Alors Carlos Pizarro, c'est le local de l'État puisque c'est notre envoyé spécial espagnol. Bonsoir messieurs.
Hola, buenas tardes. Bonjour.
Hola.
Bonjour, bonjour, bonjour. Depuis Gilles Sarkissien. Écoute, de très bons mémoires et belles souvenirs, celui-là de 2012. C'était à Danse, concrètement,
à Danse.
Ce match-là.
Ah oui.
Oui, j'étais présent. En fait, je me souviens encore, je me rappelle de la tête de Balotelli à la fin du match. Voilà,
ouais.
C'est pour ça.
On s'en souvient et on se souvient aussi que l'Espagne accomplissait une prouesse puisqu'elle elle venait de gagner la Coupe du Monde. Elle avait déjà gagné un euro et c'est un triplé qui était inédit et qui le reste pour l'instant. Coucou Antoine Grognier.
Bonsoir Ali, bonsoir à tous. Moi j'ai un souvenir un petit peu plus récent puisque j'ai eu la chance de couvrir l'Euro 2020 et donc d'être
en 2021
en 2021 pour cette demi-finale entre l'Italie et l'Espagne. Une Espagne avec Sergio Busquets à l'époque qui était vieillissant mais qui avait un niveau encore magnifique et puis ce but de Chiesa qui sera là d'ailleurs ce soir, l'attaquant de la Juventus Turin qui avait fait clairement le tournoi de sa vie cette fois-là. On va retrouver Federico Chiesa, on va retrouver cette Italie ce soir face à l'Espagne et on a hâte, vraiment hâte, tout comme les supporters qui sont déjà très très nombreux autour du stade.
On entend déjà beaucoup de bruit autour de vous. Alors on hausse le niveau dans cette Euro. La Roja et la Squadra Azzurra sont très attendus. Les Italiens sont tenants du titre, on le disait, on le rappelait avec vous hier soir encore, Antoine. Les Espagnols, eux, arrivent avec de nouveaux joueurs et on a tous envie de voir dans ce tournoi le très jeune Lamine Yamal. Et d'ailleurs, Carlos, selon les propos de votre sélectionneur, Luis de la Fuente, qui était au micro d'Antoine hier, on tous se croise dans cet Euro, eh bien les deux sélections ont beaucoup de points communs et on l'écoute, Luis de la Fuente.
L'Italie a une équipe très similaire à la nôtre. Elle a changé de culture récemment, avec beaucoup de jeunes joueurs. On en a d'ailleurs affronté certains au championnat d'Europe Espoir qu'on a gagné. Ils sont super compétitifs et ils ont aussi des joueurs d'expérience. Jouer face à eux, c'est comme se regarder dans un miroir. Notre équipe progresse, elle se développe. On travaille sur la cohésion et eux aussi ont de belles individualités. Ce sera un match de haut niveau.
Carlos Pizarro, est-ce que pour vous aussi ces deux équipes sont miroirs ?
C'était miroir en tout cas. Je pense que, comme Sharif, il a dit tout à l'heure, l'Espagne il est en train de se transformer parce que jusqu'à il y a trois jours, on jouait au tiki-taka et vraiment maintenant avec une équipe mélange de vétérans et mélange de jeunes joueurs, et on essaye de trouver un autre système et s'adapter à 4-3-3. Je ne sais pas si vraiment il y a quelque chose, évidemment, il y a quelque chose de similitude entre les deux équipes, mais je ne dirais pas que c'est un cas exactement, vraiment, parce que les Italiens, ils ont été toujours un petit peu plus défensifs, et l'Espagne, maintenant, il essaye de jouer des côtés avec les latéraux, et vraiment à l'offensive, mais bien attachant la défense, chose qu'avant, l'Espagne, il avait un petit peu oublié.
Oui, et peut-être moins de possession. Patrick Juillard, vous n'êtes pas d'accord Carlos avec Luis de la Fuente.
Moi je dirais que ce sont deux équipes qui étaient diamétralement opposées traditionnellement, disons dans les années 2000-2010, et qui se sont rapprochées. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des miroirs, il ne faut pas non plus schématiser et simplifier trop les choses. L'Espagne effectivement est un peu plus pragmatique, un peu moins guardioliste entre guillemets. Elle accepte aussi parfois de laisser le ballon à l'adversaire, elle joue davantage aussi sur la vitesse et la spontanéité de ses jeunes milieux et attaquants, mais ça reste tout de même une équipe qui aime avoir le ballon et avoir la possession. Et l'Italie, c'est vrai qu'il y a maintenant une culture tactique un peu plus offensive, un peu plus dans le risque dans le foot italien, moins le catenaccio traditionnel, mais les fondamentaux défensifs restent là. Et on se demandait avant l'émission avec Chérif s'il y avait encore des grands défenseurs à cet Euro, on peinait à en trouver, m'a cité Bastoni et je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que l'Italie garde un ADN quand
sa
même
philosophie
très défensif fondamentalement,
mais Bastoni,
les deux équipes se rapprochent, c'est vrai.
Non.
Allez-y, Chérif.
Non, j'ai que Bastoni montait très très souvent aussi faire le surnombre. C'est ça aussi la petite nouveauté de l'équipe d'Italie.
La nouveauté.
Mais sinon,
Sur l'équipe d'Espagne, d'une façon générale.
Sur l'équipe d'Espagne, De La Fuente est parfaitement méthodique. Il a totalement rationalisé. Chacun est à sa place. Il y a un vrai numéro 9, Morata. On sait que Luis Enrique, lui, il aimait bien jouer avec beaucoup de milieux, beaucoup de créateurs et pas vraiment de numéro 9. Deux joueurs sur les côtés. Williams à gauche et Yamal, notre
Barcelonais. Pépite,
voilà.
On voit que les binationaux servent aussi à des pays comme l'Espagne.
Voilà. et derrière, un numéro 10, pour Pedri, et puis voilà, quoi. C'est rationnel, chacun est à sa place, et on joue sur un vrai neuf, on joue sur les côtés, il y a de la création au milieu.
Il y a du classicisme qui est revenu, en fait.
Ouais, ouais. Et comme tu disais, on est un peu plus direct.
Et pragmatique.
Et un peu plus vertical.
Carlos Pissarro, encore une question pour vous au sujet de cette Espagne, parce que on avait discuté tous les deux après la victoire un peu éclatante de cette Espagne, hein, un 3-0 assez sec sur la Croatie qu'on a vu hier tenu en échec par l'Albanie. Et on se pose beaucoup de questions sur la Croatie, mais vous n'étiez pas très confiant ou très séduit par l'Espagne.
Non, et figure-toi que je suis un petit peu plus inquiet après d'avoir vu le match nul entre l'Albanie et la Croatie. Parce qu'en fait, l'Espagne, il a bien gagné. Il a gagné 3-0, mais à mon avis, il n'a pas contrôlé le match. C'est une équipe qui n'arrive pas à avoir le contrôle de jeu. Et une fois qu'ils sont sur 3-0 sur les scores, ils se croient des occasions, les Croates, incroyables. Et ça, c'est pas possible. C'est une équipe qui doit contrôler ou qui doit sérieusement aller jusqu'au fond de la compétition. Et donc, moi, je n'étais pas convaincu dans le fait que Rodri, par exemple, que c'est le pilier de cette équipe-là, ou Pedri, ils ont été vraiment... je ne vais pas dire que... On va dire à 50% pour être un petit peu généreux, parce que le meilleur de l'équipe, c'était Fabian Ruiz. Et alors là, que Fabian Ruiz soit le meilleur de l'équipe, c'était vraiment incompréhensible.
C'est presque faute professionnelle.
Il doit se focaliser sur les axes avec Lamine et Williams.
Eric, sur l'Espagne.
Ouais, non, mais il y a un vrai déséquilibre dans cette équipe, parce que je reste persuadé quand même qu'il y a une vraie faiblesse défensive. Alors ça s'est pas vu pour l'instant, mais en termes d'offensif, c'est tellement intéressant et tellement bien construit qu'on a presque envie d'oublier que derrière il y a quand même une certaine fébrilité. On a eu l'habitude d'avoir des grands défenseurs derrière. Je trouve que c'est pas le cas aujourd'hui.
Le Normand est très récent dans cette équipe.
Exactement.
Et puis, est-ce qu'il a la culture tactique espagnole vraiment chevillée au corps ?
C'est ça. Et puis il est fébrile. Il fait un peu genoux dans le comportement aussi, où je l'ai vu dans certains duels de la tête, dans les duels forts où là on avait l'habitude d'avoir un Ramos ou d'autres défenseurs qui étaient bien costauds. Je l'ai trouvé assez fébrile dans ce domaine-là. Et alors ça s'est bien passé parce qu'ils ont gagné 3-0, mais je reste quand même sur ma faim en me disant que quand tu vas tomber sur des vrais attaquants qui vont leur poser des problèmes et qui vont être décisifs,
avec plus
ça, risque d'être plus compliqué pour l'Espagne.
N'oubliez pas, l'Espagne, c'est une équipe qui ose le déséquilibre. Donc si ça penche devant, justement, tu prends des risques, et ces risques-là, ils l'assument. Faut pas oublier non plus qu'ils menaient 3-0 à la mi-temps. Donc, ils n'allaient pas, à mon sens, se ruer en deuxième mi-temps pour gagner 5-6-0.
Non, c'était pas le projet.
Et en face, il y a encore la Croatie a des beaux restes. C'est de plus en plus fatigué. Ça me fait mal au cœur.
Ouais, c'est triste de voir.
Mais contre l'Espagne, les restes, quand même.
Non. Mais contre l'Espagne, j'ai l'impression que c'était les derniers feux, tu vois. Ouais. La dernière goutte d'énergie, la dernière petite audace.
Moi, je pense en fait que ces deux équipes, on ne sait pas encore quel est leur niveau, puisque sur leur premier match, elles ont gagné sans forcer, en faisant la décision toutes les deux très rapidement et ensuite en gérant tranquillement.
En étant sérieux.
Donc je pense qu'elles ont encore de la marge, mais à savoir laquelle en a le plus et laquelle va disposer de l'autre ce soir, j'attends de voir, je ne sais pas moi.
Antoine Grenier, vous qui étiez en conférence hier, en conférence de presse, comment vous sont parus les Espagnols ?
En ce qui me concerne, j'ai découvert que Luis de la Fuente en espagnol, ça voulait dire Didier Deschamps, tellement il s'est exprimé de manière mais bateau à un point incroyable, parce que il y a chez Luis de la Fuente la volonté d'absolument ne rien laisser paraître, de ne donner absolument aucun indice à l'équipe d'en face sur l'éventuelle organisation et sur la manière dont son équipe pourra jouer. Mais parce que justement cette équipe espagnole, elle est devenue un petit peu plus imprévisible. Il y a une statistique très intéressante qui est sorti après le match face à la Croatie. Ça faisait 10 ans, 10 ans, 112 matchs très exactement, que l'équipe d'Espagne avait toujours la possession lors de ces matchs. Et pour la première fois face à la Croatie, elle ne l'a pas eu. Pour la première fois depuis 10 ans. Ça montre le changement de mentalité d'un Luis de la Fuente qui veut une équipe beaucoup plus adaptable. Donc forcément, quand ils sont apparus en conférence de presse, que ce soit lui ou Fabián Ruiz qui est venu et qui connaît très très bien l'Italie pour avoir joué à Naples pendant plusieurs années et où il a même été entraîné par Luciano Spalletti, donc c'est dire si les Espagnols ont aussi ce petit avantage-là, les Espagnols n'avancent pas du tout en favoris, ils n'ont pas du tout envie d'endosser cette tunique-là sur ce match-là. Et forcément, ça rend les conférences de presse un petit peu plus ennuyeuses, mais le jeu un petit peu plus intéressant.
Mmh. Oui, en tout cas, c'est vrai que pour cette affiche, on demande à voir finalement, et on aimerait en savoir plus sur ces deux formations. Les Italiens, donc miroir ou pas de cette Espagne, ont été difficiles vainqueurs quand même de l'Albanie, hein, avec surpris d'entrée par le but le plus rapide de cet Euro. C'était au bout de 23 secondes.
C'est un cadeau quand même. Hein.
Oui.
Le cadeau de Di Marco. Mais une bonne réaction quand même derrière l'Italie.
C'est ça.
Hein.
Exactement. Oui, oui. Elle a réussi donc à un peu dompter aussi ses fantômes. Italie qui a passé le premier test. Elle compte dans ses rangs surtout cette Italie. Vous y faisiez allusion hier, Antoine. Un petit nouveau, mais quand même, il a déjà 26 ans. Milieu de terrain qui s'est tardivement révélé. Il est joueur de l'Hellas Vérone et il était présent hier en conférence de presse. Face à vous, Antoine, il s'agit d'un certain Michael Folo Runcho.
Il y a un an, il était inimaginable pour moi d'être appelé à disputer cet Euro avec l'équipe nationale, même si j'en rêvais. C'est sans doute le fruit de mon travail durant toutes ces dernières années qui paie enfin. Maintenant, le plus dur commence, car il va falloir que je m'accroche. Pour moi, c'est un nouveau départ. Et je sais qu'en sélection, je dois encore pouvoir donner plus à mes partenaires. Mais comme je l'ai fait jusqu'à présent, je continuerai à travailler dur et à essayer de m'améliorer jour après jour.
Antoine, comment vous est-il paru ce néo, pas jeune, mais en tout cas celui qui commence et qui débute avec la Squadra Azzurra?
Il est apparu assez sur la réserve, mais c'est normal. C'est un joueur, Michael Folo Runcho, qui il y a encore un an était très 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 loin d'imaginer qu'il pourrait jouer un jour en sélection italienne. Spalletti est allé le chercher au Hellas Vérone, où il a fait une plutôt bonne saison, mais c'est évidemment pas le plus connu, le plus réputé et celui qui sera aussi le plus attendu, hein, il faut bien le dire. Mais ça montre aussi à quel point Luciano Spalletti n'a pas envie de s'embarrasser de statut, n'a pas envie
absolument
de s'embarrasser de joueurs qui ont été couronnés champions d'Europe il y a 3 ans et qui auraient pu essayer de postuler. Il veut renouveler, il veut apporter quelque chose de nouveau et Michael Folo Runcho, il incarne parfaitement cette nouvelle vision de Luciano Spalletti.
Sheriff Guémour, ce joueur, ce qui est intéressant, c'est que certes, il y a une explosion fulgurante, il arrive depuis peu sous les feux de la rampe du côté italien, mais c'est pas en milieu de terrain qu'il avait du mal à trouver des joueurs, théoriquement, Luciano Spalletti.
Non, mais ce qui se passe, c'est que Spalletti, je pense, qui nous refait une Lippi en 2006, c'est-à-dire on ne tient pas compte des statuts, on ne tient pas compte de mettre en avant ce qu'on appelle la triade Lombardo-Piémontais, c'est-à-dire la Juve, le Milan et l'Inter, même s'il y a quand même une bonne ossature Inter. Il y a très peu de joueurs de la Juve dans cette équipe. Il va chercher les meilleurs à l'instant T. Et Folo Runcho faisait partie de ces joueurs-là. Et puis voilà, quoi. Au mérite, il l'a sélectionné. Et ça, c'est bien, ça. Parce qu'habituellement, n'oubliez pas que l'équipe matrice, le club matrice de l'équipe d'Italie, c'est la Juventus. Il y a très peu de joueurs de la Juventus cette année.
Ça reflète aussi les saisons moyennes que vient de faire la Juve.
Absolument.
Après, moi, Folo Runcho, il profite aussi. Alors, tout le mérite lui revient parce qu'il n'a pas volé sa place, mais il profite aussi de la suspension de Tonali, qui était un peu le.
Oui.
un titulaire désigné pour cette équipe qui a été suspendue
il aurait
pour,
dû être titulaire.
Pour des raisons extrasportives.
Mmh. Les histoires de Paris Sportif.
Paris,
hein.
Mmh. Il aurait dû être titulaire dans cette équipe. Ça montre la richesse de l'Italie à ce poste parce qu'il y a des joueurs de qualité.
Bon,
ceux
oui.
qui ont joué
ça correspond au football italien
samedi,
aussi.
Mais il y a aussi Locatelli, il y a aussi Zaniolo, donc il y a du monde.
Pellegrini au milieu, oui.
Voilà,
oui,
donc il
oui,
y a
oui,
du monde. Oui. Folorunso, rappelons que c'est un joueur d'origine nigériane. Donc là aussi, on avait eu Retegui qui était d'origine argentine en attaque il y a quelques qui est toujours là, mais qui joue plus beaucoup. Folorunso, lui, est d'origine nigériane, donc l'Italie aussi se sert de son réservoir. Et il a eu un début de carrière
vraiment.
Il n'y
a pas que les équipes africaines maintenant.
Sur la
c'est
pointe
tout le monde.
Des pieds, il a eu une ascension très très progressive. On s'attendait pas, il n'était pas programmé pour devenir international ce joueur-là. Il a commencé en série C dans des petits clubs du sud de la Botswana. Donc voilà, c'est un joueur qui a eu une ascension au contraire. Donc c'est aussi bien que l'Italie donne sa chance à des joueurs de ce type-là.
Mais surtout que tu viens de perdre Verratti dans la construction
aussi.
Du jeu, que tu as Barella
enfin,
qui est quand même qui reste quand même
qui s'est, oui, oui, qui s'est jamais sûr, vraiment imposé en équipe nationale.
Oui, mais ce que je veux dire c'est que celui qui tient
d'Europe
qui était là,
il avait joué.
Celui qui tient le jeu aujourd'hui c'est Barella. Et on voit aussi l'importance de son. Bah déjà, il a marqué le dernier but contre l'Albanie. Mm-hmm. Et c'est lui qui tient le jeu au milieu de terrain. Et l'Italie, elle est un peu en reconstruction parce que tu perds tes deux défenseurs centraux de métier qui sont Chiellini et
Bonucci.
Et Bonucci, qui quand même et qui ça va être très très dur de les remplacer. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour trouver la bonne mesure derrière.
Je suis pas inquiet. Moi.
Toi, t'es pas inquiet. Par contre, je suis d'accord avec le fait que l'Italie pour moi est plus solide que l'Espagne défensivement. Pour moi.
Sûrement, ouais. Puis il y a le petit jeune Calafiori que je trouve pas mal.
J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Il a de l'allure.
Aussi, ouais.
Il a de l'allure.
C'est vrai.
Tu vois, il a un engagement.
Il est jeune, mais dans le caractère, il est bon.
Très affirmé.
Ouais, j'aime beaucoup.
Il est jeune.
Carlos Pissarro et Antoine Grenier, à vous la parole pour conclure ce débat avant qu'on ne vous retrouve ce soir dans Radio Foot et qu'on vous retrouve à l'antenne pour raconter le match, bien sûr.
C'est un vrai défi pour les deux équipes vraiment aujourd'hui. Et on va voir ces changements d'identifiants. Et où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont les deux équipes?
Où est-ce qu'elles en sont?
On va savoir dans 3 heures où est-ce qu'ils sont les deux équipes, les vrais tests, et savoir si ces défenses-là, vraiment, il va tenir face à l'Italie. Et vraiment, l'Espagne, il va confirmer son début d'Euro.
Antoine?
De mon côté, ce que j'attends de cette rencontre, c'est de voir qui sera à la hauteur de ses dignes héritiers, l'invincible armada espagnole des années 2008-2012, ou est-ce qu'on poursuit sur la renaissance italienne, au moins au championnat d'Europe, parce qu'il manque toujours les participations en Coupe du Monde. Mais cette équipe d'Italie, elle doit prouver un petit peu plus que ce qu'elle a montré lors de ce premier match face à l'Albanie, où ça a été... Ça a été compliqué, mais elle a montré aussi un sacré caractère. Il y a de la mentalité. Spalletti apporte une hargne qui avait peut-être un petit peu disparu ces dernières années du côté italien, et ça sera intéressant face aux Espagnols.
Ouais, et en plus, on peut repenser hein, quand ils étaient arrivés en 2020-21 à 7 euros. Ils étaient arrivés un peu discrètement hein, parce qu'ils avaient été écartés de la Coupe du Monde en 2018 et finalement, ils avaient remporté le titre. Eric a un petit message.
Ouais, là, j'ai une petite stat qui peut être intéressante. C'est que, alors c'est donc la 5e fois que l'Espagne et l'Italie s'affrontent, c'est-à-dire depuis 2008, il y a un Espagne-Italie dans l'Euro.
Non, bah depuis 1980,
ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que là, 5 fois consécutives.
Ouais, mais il y en a eu dans
Et lors des 4 dernières confrontations entre les deux, le vainqueur a soulevé 3 fois le trophée à la fin.
3 fois.
Le vainqueur de cet affrontement a soulevé à 3 reprises le trophée.
Donc ça veut dire que celui qui gagnera ce soir,
disons que c'est un bon signe pour celui qui va gagner ce soir.
C'est possible, en tout cas c'est arrivé 3 fois sur les.
Il y aura match nul.
Ah oui, voilà.
Et là ça pourrait être ça.
Ça pourrait arranger les deux équipes.
C'est intéressant quand même de voir, tu te dis.
Merci beaucoup, messieurs. Gracias, danke, grazie mille à Carlos et Antoine, nos envoyés spéciaux. On vous retrouvera tout à l'heure dans le stade. Et je sais que vous êtes côte à côte, mais on avait un peu de mal à entendre Carlos Pissarro, mais je suis sûre que pour le match, tout ira beaucoup mieux. Merci beaucoup, messieurs. Rendez-vous tout à l'heure à 20h53, hein, 18h53, en temps universel.
C'est ça, exactement, pour cette intégrale de cette finale du groupe B.
On a hâte de vous entendre. Merci beaucoup, Carlos et Antoine. À tout à l'heure.
On continue, nous, parce que dans un autre groupe, il y avait un match important entre la Slovénie et la Serbie.
E sad 1-0 po Sloveniji.
Kornera. Očekujemo dobar centar šut. Ubačena lopta. Gužva. Gol!
Il y a eu du suspense jusque dans les dernières secondes et les sourires ont soudain changé de visage dans les tribunes tout à l'heure. Les Slovènes qui tenaient leur qualification ont vu les Serbes égaliser grâce à Luka Jovic à la 95e minute, hein, 90+5 comme on dit dans notre langage. Ballon hors de portée d'un certain Jan Oblak qui était dans les buts slovènes. Est-ce que c'était un sacré match entre ces
c'est
deux nations de l'ancienne Yougoslavie?
Non, je suis pas d'accord.
Eric, bah, non, Eric
non.
Et Chérif.
Non, mais en termes de spectacle, si. Franchement,
vous avez pas
c'était
dormi.
C'était pas terrible. Non, j'ai pas dormi du tout. Non, mais c'était pas terrible. Un peu mieux sur la fin, mais sinon, c'était pas terrible en termes de contenu sur le match. Après. La Serbie s'en sort bien quand même parce que je parle en termes de timing, parce que ça se passe vraiment à 5 secondes de la fin. Il siffle la fin juste derrière.
La Serbie avait perdu son premier match contre l'Angleterre, la Slovénie avait fait 1-1 contre le Danemark.
Et
donc
pour la Slovénie, pour le coup, c'est vraiment un mauvais coup parce qu'ils étaient qualifiés et que là, il va falloir aller chercher
la
le
suite.
Reste. Ouais, bien sûr. Mais sinon, la Serbie, elle a eu des occasions, mais en termes de quand on compare. Les qualités des joueurs intrinsèques et qu'on voit le spectacle proposé, mais c'est une catastrophe vraiment par rapport à ça. C'est là où je dis qu'on ne prend pas de plaisir, on ne prend rien du tout et que finalement ils s'en sortent pas mal par rapport à ça parce qu'ils ne proposent pas ce qu'ils devraient proposer en fait.
Chérif, votre version du match.
Alors, le premier indice qu'on avait, c'était pendant les hymnes. D'un côté, il y avait une chaîne alpine, c'est des mecs qui font 1m90-95, et de l'autre côté, un massif balkanique avec des gens qui font 1m90-95. Je me suis dit, la première mi-temps, ça va être deux montagnes qui s'affrontent. À mon avis, il y aura très peu de mouvement. C'est à peu près ce qui s'est passé. Après, je suis d'accord avec toi, Eric. J'étais un peu déçu par les Serbes. J'attendais la petite étincelle. Heureusement que tu as dit que tu étais là. On regrette un peu
c'est
par
vrai,
rapport
moi
à l'Angleterre.
J'aime beaucoup ce joueur, mais...
Non, mais il a apporté...
Il a pas apporté énormément, là, sur ce match-là. Mais en tout cas, je sais que c'est lui qui doit apporter.
Il voilà. Mal utilisé.
Et ensuite, à partir d'une heure de jeu, là, on a commencé à avoir des équipes qui se libèrent un peu. J'en veux surtout à la Slovénie, qui n'a pas su profiter... de renverser la table parce qu'en fait ils se sont
contentés à la Slovénie sur ce match.
Oui, parce
t'as
que
vu un peu les effectifs sur le papier quand même.
Non, mais
j'en veux pas à la Slovénie, j'en veux à la Serbie moi.
Non, attends, mais tu vas pouvoir le dire. Quand tu mènes 1-0, je veux dire,
tu dois assommer ton adversaire.
Voilà, tu devais les assommer, tu devais mettre la tête sous l'eau. Ils ont continué à défendre et je pense qu'ils n'ont pas saisi que la Serbie avait la tête sous l'eau. Et
ça
ils auraient dû les achever. Ils ne les ont pas achevés.
En tout cas, on le voyait dans les tribunes que la Serbie avait la tête sous l'eau.
Après, je veux dire, d'un point de vue physique, c'est peut-être au niveau de la densité physique athlétique, c'est peut-être ce qu'on fait de mieux ou de pire. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais vous n'attendez pas à des mouvements, de la fluidité, du tiki-taka.
Il y a quand même des qualités techniques
professeur
chez les Serbes qui...
Non, c'est
pas
possible.
Professeur Julliard.
Je vais y aller à fond contre la Serbie. Hein. Mes petits camarades, surtout Chérif, sont très indulgents. Mais par rapport au niveau supposé de l'équipe, le rendu sur le terrain, la production est indigente. C'est indigent. Ils méritaient d'être éliminés ce soir, les Serbes. On sent que c'est le sélectionneur, il achète la paix sociale entre ses joueurs en ne faisant aucun choix. Comment est-ce qu'on peut aligner dans la même équipe Vlahovic et Mitrovic ? C'est le même joueur.
Ouais, enfin, non.
Déjà,
Tadic,
c'est
caractéristique c'est peut-être, un... mais il y en a un qui ne court pas.
Oui, ouais, d'accord.
C'est Mitrovic, c'est dramatique.
Moi, je trouve que ça se tient.
Mais non, ça ne se tient pas. Ça ne veut rien dire.
Contre
ensuite,
l'Angleterre, ça...
Il y a des bons ailiers. Au lieu de les faire jouer dans un 4-3-3 sur l'aile, on les fait jouer en piston à 50 mètres du but adverse. Zivkovic et Mladenovic. Donc ça ne rime à rien non plus. Ensuite, Milinkovic-Savic, le meilleur milieu, bizarrement, il ne joue pas. Et après, Tadic, qui est le maître à jouer, le meilleur joueur, on ne le met pas dans les bonnes conditions en ne le mettant pas à son poste.
Non, il avait la liberté, je l'ai vu dans l'axe, je l'ai vu
oui,
à droite.
Il est électron libre, mais ouais. ça ne fonctionne pas avec Mitrovic. Mitrovic, il faut des centres. S'il
mais
en
t'as
a
vu
pas,
les
Golgothes
qu'il y a en face et les mecs.
Mais dans ce cas-là, il ne faut pas jouer.
Centres,
dans ce cas-là, il ne faut pas jouer sur Mitrovic.
Il y a une ou deux fois où le ballon il est là et il est trop statique, il n'anticipe rien du tout.
Il faut l'enlever.
C'est incroyable. Franchement,
moi, pour moi, la Serbie, c'est ni fait ni à faire. Ils ont un point en deux matchs, ils ont de la chance.
Là où Stojkovic, il a sa responsabilité, c'est que on voit rien du tout et on a l'impression qu'il est spectateur. Il regarde.
Le vestiaire a l'air pourri.
C'était un joueur extraordinaire.
Quand vous voyez la tête des joueurs qui sortent, le regard qu'ils lancent à leur remplaçant, je pense qu'il n'y a pas une ambiance folle dans les
clubs. Vlahovic,
non, mais c'est vrai, c'est sûr.
Vlahovic fait la gueule quand il se fait remplacer, je suis d'accord. Et ça, au cours des deux matchs.
C'est lui qui a tapé par terre là, quand il sort et qu'il n'est pas content. Là.
Contre l'Angleterre, il a fait le tour. Il a fait le grand tour, comme on dit, plutôt que de sortir directement.
J'adore votre enthousiasme autour de cette affiche si prometteuse.
Non,
moi, j'aime bien le football d'ex-Yougoslavie. J'aime bien la Croatie et la Serbie, normalement. Mais là, c'est atroce. Quoi. Mmh. Ouais,
bon. En tout cas, dans ce groupe C, ce qu'on peut se dire, c'est que ces deux équipes, du coup, alors la Serbie a un point et reste vivante, mais la Slovénie n'en a que deux. Et la Slovénie jouera sa qualif contre l'Angleterre, la Serbie contre le Danemark. Est-ce que, selon vous, les deux ont encore une chance?
La Serbie,
la chance
de la Serbie, c'est qu'elle a beaucoup de marge. C'est-à-dire qu'avec les joueurs qu'elle a, il faut qu'il fasse des choix. Je pense qu'il a pas beaucoup d'autorité par rapport à un vestiaire qui a l'air assez volcanique et il fait pas de choix. S'il fait des choix et qu'il propose ce qu'on peut faire de mieux avec son effectif, à mon avis, la Serbie peut faire bien mieux dans le contenu et donc dans les résultats. Et la Slovénie, je pense qu'elle a laissé passer sa chance aujourd'hui.
Je crois que ça se voyait sur leur visage.
Chérif a raison, ils auraient peut-être dû enfoncer plus la Serbie. Est-ce qu'ils le pouvaient? Est-ce qu'ils n'ont pas joué les gains petits? Peut-être, mais c'est dommage.
Ils ont un poteau en première mi-temps, ça veut dire qu'il y avait la place, mais je te l'ai dit, ils ont attendu à 10 derrière. Et c'est très très dur de les bouger. Une fois de plus, c'est des montagnes. Maintenant, pour la suite...
Chacun perd son match, de toute façon, ils sont morts. Mais bon.
À mon avis, il n'y aura pas de meilleur deuxième si perd chacun leur match.
Je vais aller dans ton sens sur une chose. La Serbie, c'est pratiquement la seule équipe que j'ai vue du tournoi qui ne fait pas de pressing.
Meilleur troisième, je voulais dire.
Qui ne fait pas de pressing contre-pressing. Ce n'est pas possible. On est en 2024. Tu dois mettre l'équipe en difficulté.
Mais moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de se battre les uns pour les autres.
Est-ce qu'ils ont l'énergie? Ce qui dégage de cette équipe, c'est déjà... Il ne doit pas y avoir une bonne ambiance.
Non, ça c'est sûr.
Le coach, j'ai l'impression qu'il est influencé par je ne sais pas qui, mais il ne fait pas de choix, comme tu disais. Et du coup, c'est inquiétant.
Rappelez-vous à la Coupe du Monde, contre le Cameroun, le match que la Serbie fait.
3-3.
Elle maîtrise le match et elle arrive à se faire rejoindre parce qu'ils font des mauvais choix, parce qu'il y a... les joueurs s'entendent pas en fait. Mm-hmm. Et c'est pas
ça
date pas de cette
Euro. Ça respire pas la sérénité.
Hein. Ça se jouera au troisième match et ça sera face à l'Angleterre et au Danemark, deux équipes qui s'affrontent en ce moment et on approche de la première mi-temps, mais pour l'instant, étrangement, en dépit de l'ouverture du score par l'Angleterre sur le score grâce à Harry Kane, pour l'instant, les deux équipes Danemark et Angleterre sont à égalité. On va prendre des nouvelles en Allemagne, rapidement, mais de la bouche de notre sélectionneur. On va prendre des nouvelles d'un certain Kylian Mbappé.
Quoi de neuf, docteur ?
Didier Deschamps qui a parlé tout à l'heure de Kylian Mbappé et il a donné de ses nouvelles en restant assez évasif. Il a fait du Didier Deschamps, comme nous dit Antoine Grenier.
Tout va dans le bon sens. Il a fait la séance qui était prévue hier pour lui. Il va participer à la séance aujourd'hui pour faire en sorte qu'il puisse être disponible demain. Donc, après, comme tout sélectionneur. il n'y a qu'une personne qui décide, c'est le sélectionneur, donc je prendrai la décision.
Il le rassure déjà là, parce qu'on a l'impression que c'est Kylian qui décide, hein, nous.
Mais si Kylian Mbappé disait non, je ne veux pas jouer, là, ça serait le joueur qui
aurait toujours joué.
Il y a une décision du joueur, évidemment, mais à la fin, j'espère quand même que c'est Didier Deschamps qui va lui dire écoute, je préfère quand même que tu restes soit sur le banc, ou soit que tu commences le match et que tu sortiras, je ne sais pas. Mais c'est quand même lui qui doit.
Et puis, un staff médical, peut-être aussi, qui donne son avis.
Là, c'est un cas particulier parce qu'il y a un vrai ressenti du joueur. C'est-à-dire que là, tu peux essayer de deviner ce que tu veux. Là, il y a une sensation,
la respiration,
les vibrations, comment tu te sens. Est-ce que tu es confortable avec le fait que la plupart du temps, tu vas respirer par la bouche? Alors,
est-ce que l'appréhension...
Dans les grands efforts, tu respires par la bouche, mais tu as quand même besoin de respirer par le nez. Et l'équilibre entre les deux, si tu ne l'as pas, entre les grosses frappes, les grosses courses, l'appréhension des duels avec l'adversaire, c'est aussi ça qui va être important.
Eric,
le masque, parce que quand tu as quelque chose sur le visage, quand tu mets un masque, non mais c'est vrai,
mais le
quand
masque
tu mets
est
un
pas masque, prêt, là,
ça peut
Eric.
Être une gêne aussi, quelque part. Donc c'est pour ça, il y a plein de choses à appréhender pour l'instant pour Mbappé avant de commencer à jouer.
Mais surtout, est-ce qu'on peut imaginer que les Hollandais s'en prendraient un petit coup de coude à Kylian?
Je pense pas. Tout ce qui est au niveau de la tête, les coups de coude, les doigts dans l'œil et tout ça, en général, non. Par contre, quand on sait qu'un joueur est atteint au métatarse, à la cheville, généralement, les défenseurs le savent et ils peuvent en jouer. Et on l'a vu particulièrement avec Neymar.
Mm-hmm. Et je pensais tout de suite à lui.
Là, on va être très très clair. Il a été une cible parce qu'on savait qu'il était fragile au niveau des... Et on lui a fait du mal. Là, c'est au niveau de la tête. Après, il y a un contact, un jeu aérien, une balle à aller jouer.
Le problème, c'est qu'il
ne sait pas se retenir. Hein.
Il ne sait pas se protéger, Kylian Mbappé.
C'est pas son point
fort. Avec ses bras.
Moi, c'est
là le problème. C'est là où il y a aussi quelque chose. Tu dois t'adapter à la situation.
Tu dois d'abord envoyer le coude et après passer la tête.
Bien sûr.
C'est pas un joueur de tête. Il n'aime pas le duel aérien. Il n'aime pas
les ballons aériens. Il n'ira plus. C'est sûr.
Eric Raben nous l'a très bien expliqué.
À mon avis, sur ce match-là, il y est allé parce qu'il était conscient qu'il avait raté des choses et il voulait se racheter. Donc ça, c'est à mon avis, il a été
il
un peu victime de sa
cas.
Générosité.
Il voulait bien faire.
Après, c'est que moi, pour le coup, autant je suis pour que ce soit l'entraîneur qui décide et pas les joueurs, mais là, la décision, elle dépend beaucoup du ressenti du joueur.
Oui. C'est sûr.
Est-ce qu'il va...
Non, mais s'il dit non, j'imagine qu'on ne l'oblige pas à jouer. Par contre, s'il dit oui, il y a un choix.
Le seul cas qu'on peut redouter, c'est que le joueur dise ça va alors que ça ne va pas. Il peut très bien... feindre d'aller bien alors que finalement il respire pas si bien que ça parce qu'il veut jouer et parce qu'il veut faire le maximum pour l'équipe dont il est le capitaine. Donc mais ça, il faut aussi que le staff décrypte ce que va lui dire Kylian au moment de faire le choix final.
Mais peut-être que ça sera suffisant de le mettre sur le banc et puis de le faire rentrer.
Moi,
je pense que c'est
préférable. Par sécurité, c'est préférable. Moi, je pense qu'il vaut mieux essayer sans lui, se dire « écoute, on va voir ce qui se passe ». Avec des gens valides à 200%.
Bonne réflexion, ouais.
Et après, derrière, te dire, écoute, si ça va pas, on peut essayer, voir si tu fais match nul, c'est plutôt quand même, ça reste quand même un résultat correct. Donc tu prends pas le risque et tu te dis, t'as encore du temps pour récupérer derrière. Moi, je pense ça comme ça.
Eric, je suis d'accord avec toi, on fait pas un cadeau à Giroud, Colomouani, enfin celui qui devrait le remplacer dans l'axe. C'est faire. Très peu de cas de ces joueurs-là. Bon, la décision, elle sera prise de toute façon avec Mbappé. Il jouera pas. Il sera
remplaçant. Il y a son ressenti, c'est sûr.
D'accord. Mais on peut aussi mettre dans les bonnes conditions Colomouani ou Giroud qui vont
l'attirer. C'est important. C'est bien ce que je disais. Tu dois prévenir les mecs qui sont censés le remplacer ou qui, même s'ils se préparent inconsciemment, ils se préparent.
Et les mettre en
valeur.
Mais
quand même, tu dois dire, écoute.
Mais je ne sais pas s'il va être remplacé dans l'axe parce que Mbappé jouait dans l'axe.
Non, mais alors ça.
Mais il part du côté gauche et on a mis sur le Deschamps aligné Marcus Thuram pour faire les ajustements. S'il n'y a pas Mbappé, on peut aussi imaginer. Imaginez un 11 de départ avec Barcola à gauche, un avant-centre qui serait Giroud et Dembélé ou Coman à droite.
Mais ça change un peu l'optique
de l'équipe. Ouais.
On rappelle qu'il n'y a pas 50 000 buteurs derrière Mbappé, à part Griezmann. Le reste, c'est Giroud, bien sûr. Et le reste, c'est pas beaucoup.
Non.
On verra ça demain soir.
Il faut commencer un jour.
Mais comme je vous le disais, il n'y a pas qu'en Europe qu'on assiste à une compétition continentale. Aux Amériques, et je dis bien aux Amériques parce que c'est de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, eh bien, on va s'affronter, et ceci dès ce soir, ou du moins cette nuit, en fonction des latitudes très à l'ouest de cette compétition.
The Copa America with...
Emiliano Martinez.
Leon Bailey.
Douglas Luiz. John
Durán. Julio Enciso.
Ethan Pino.
Soy Enzo Fernández.
Jefferson Lerma.
Gabriel Martinelli.
Chris Richards. Tim Ream.
Andreas Pereira.
Alison Becker.
Luis Diaz. Julián Álvarez.
Alejandro Arnacho.
Miguel Almirón.
Bruno Guimarães.
Rodrigo Bentancur.
Cristian Romero.
Mikel Antonio.
Et oui, sur un air de tango quand même, parce que la Copa América, c'est sud-américain. Alors, vous avez entendu tous ces joueurs donner leur nom, et c'est les Latinos qui jouent en Première Ligue. Là, ils vont se retrouver à l'ouest, hein, beaucoup plus aux États-Unis, et à 2h du matin sera donné le coup d'envoi de cette Copa América, une compétition qui devrait voir... Et pour la dernière fois, un certain Léo Messi, on imagine. Sauf si c'est un homme bionique, mais il y en a de plus en plus dans le football, des vétérans bioniques, n'est-ce pas, Eric ?
Il aimerait bien.
Et on verra pour la première fois aussi un Brésilien promis, lui aussi, un bel avenir. Il est déjà membre du Real Madrid et c'est le jeune Hendrick. On en est à la 48e édition, c'est plus qu'une canne. Et Chérif Guémour, cette compétition, on se demande à quel rythme elle est. Hein, parce que parfois, c'est tous les 4 ans, tous les 2 ans, des fois, c'est même tous les ans.
Quand j'avais vu toutes les éditions, tout le palmarès, parce que c'est sans doute une compétition qui a eu du mal à trouver son rythme et tout. Donc, il y a quoi ? Il y a 10 pays sud-américains. Donc, comment on fait des poules ? Rappelez-vous, avant, il y avait... Oh, il y avait 2 poules de 4. Enfin, je me rappelle plus, mais c'était
5.
Oui, c'était voilà, c'était ça. Ouais. Il y avait des wild cards, c'est-à-dire des invitations. Alors on invitait
le Japon, le Qatar.
Voilà, c'est ça.
Au départ, effectivement, c'était l'Amérique du Sud, et après on a commencé à élargir le cercle, à inviter des voisins latins, Amérique centrale.
Et comment ça s'appelle aussi d'Asie, Qatar et tout.
Voilà, récemment c'était le Qatar.
Là, par contre, on a rationalisé, c'est tout le continent américain, plus les Caraïbes, la zone CONCACAF.
Et là, on est à 16.
Et là, on est à 16.
C'est pas mal.
C'est l'inflation.
Moi...
Ça fait une formule de 4 rondes, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais voilà. Parce que, comment dire, moi, personnellement, j'avais émis des réticences pour la Coupe du Monde des clubs et tout ça, mais je continue de défendre le principe d'universalité, c'est-à-dire, tant qu'on n'est pas à 40 000 équipes, 16 équipes ramassées, qui permettent à des équipes justement d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord de se confronter aux grosses équipes sud-américaines. Moi, j'aime bien cette idée. À 16 équipes, c'est bien. Après, il ne faudra pas passer à 24 parce que ce sera n'importe quoi. Inviter d'autres confédérations. Ces équipes, voilà.
On est quand même dans une période d'hyperinflation au point de vue participant.
Il ne faut plus en bouger.
Quand on pense que dans ce même pays, il y aura l'année prochaine un mondial des clubs à 32 équipes et l'année suivante, en 2026, une Coupe du Monde à 48.
Ça fait beaucoup.
Non, mais là aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a le Canada et les États-Unis qui sortent un peu du. Sinon, tout le reste, c'est plutôt bien, là, entre l'Équateur.
Oui.
Mais
en tout cas. Bon. Ouais. Ouvre le bal ? Eh bien, ce sont les Argentins. Et vous allez l'entendre, les Argentins, ils sont face au Canada, mais je crois que c'est déjà les supporters de la Albiceleste qui sont présents. Les supporters de l'Albi Celeste qui chantent les louanges de leur sélection, allusion évidemment à Diego Maradona, mais aussi à Léo, le capitaine éternel. Ça va être sa 183e sélection. C'est pas mal quand même, pour un joueur, quel qu'il soit. Et il aborde, on va l'écouter, Lionel Messi, il aborde cette nouvelle Copa América dont ils sont les tenants du titre. Ils avaient gagné face aux Brésiliens. Ils sont aussi, ne l'oublions pas, champions du monde. Et il sait évidemment ce qu'on attend d'eux, les Argentins.
Je crois que l'Argentine est toujours favorite, au-delà du fait qu'on vient de gagner les dernières Coupes du Monde et Copa América. Et même avant, quand on n'arrivait pas à l'emporter, on figure toujours parmi les favoris, que ce soit au début d'un mondial ou d'une Copa América. L'Argentine est toujours candidate au titre, tout comme le Brésil. Et d'autres sélections sud-américaines arrivent très fort, comme l'Uruguay, la Colombie, l'Équateur. Après, c'est difficile de jouer tous les matchs à fond, mais ça va être une bonne Copa América.
L'ambiance dans le bus des Argentins qui partaient à leur entraînement. Alors, Chérif Guémour, c'est champion du monde très attendu au tournant. En même temps, c'est une équipe bon, face au Canada. Alors, on a vu le Canada très récemment face au vice-champion du monde, qui étaient les Français.
0-0.
Qu'est-ce qu'on peut attendre sur cette compétition-là des Argentins, si ce n'est d'aller en finale ?
Ben déjà, faut toujours suivre cette équipe d'Argentine. Moi, je les ai suivis après la Coupe du Monde. Ils sont sur leur nuage, ils sont sur leur dynamique. Ils sont heureux de se retrouver ensemble. Il y a quelque chose vraiment de vraiment touchant. Pendant très longtemps, ils ont été un peu les chats noirs de cette. C'est pour ça que Messi revenait là-dessus,
dire
on est favoris et tout. Pendant très longtemps, ils ont été chats noirs et pas simplement contre le Brésil, mais
ils
contre des équipes comme le Chili, le Pérou. Il fallait leur arriver des trucs et tout. Il faut pas oublier que c'est dans le cœur de Messi et ça, le peuple argentin le sait, le ressent et pareil pour ses coéquipiers. Pendant longtemps, il a été boudé par son pays. Et là, ils arrivent, ils sont dans une dynamique. Et pour la. Habituellement, c'est le Brésil le numéro un. Et là, depuis quelques années, la force principale de l'Amérique du Sud, c'est l'Argentine.
Mmh. Bah, oui, ils ont des bons jeunes en plus. Hein. Derrière ce qu'on a vu il y a un an et demi au Qatar en Coupe du Monde, il y a le jeune Echeverry qui a été recruté par Manchester City, un jeune de River Plate de 17 ans qu'on appelle El Diablito, déjà qu'on annonce comme le futur Lionel Messi. Alors ça, il faut se méfier, on a eu assez de futurs Zidane en France pour savoir que la vérité à 17 ans n'est pas la vérité à 20 ou 25. Il y a Garnacho aussi dans l'autre club de Manchester,
il
à United, révélé. Qui fait une belle saison,
il a passé le cap.
Qui donne du 109 à cette attaque. Donc oui, c'est une équipe qui vit bien, bien sûr, Julian Alvarez. Ouais. C'est une équipe qui vit bien, il y a de l'émulation. Et elle a déjà gagné 15 fois la Copa América, donc pourquoi pas 16.
Non, mais là, c'est surtout qu'elle vient de gagner la Copa América et la Coupe du Monde derrière. Voilà. Donc, ça, en fait, la dynamique, elle est tellement au top. Et du coup, ce qui est vrai, et c'est là où on retrouve un Messi complètement décomplexé et qui est complètement. On le sent tellement serein.
Libéré.
C'est pour ça qu'il est peut-être un peu plus bavard
en
dans
plus,
ses interviews.
En plus, il est à domicile.
Exactement, il est à domicile.
Parce que lui qui joue en MLS, il joue aux États-Unis.
Franchement, là, il dégage quelque chose de. C'est pour ça que tu disais, ils sont contents de se retrouver ou ils sont contents de se retrouver.
C'est une famille.
Mais c'est. Voilà, c'est parce qu'ils ont. Ils ont
relâché.
Voilà, exactement. Ils ont atteint un objectif.
Et quand un joueur technique est relâché, ça peut être.
Exactement.
Mais Julien, Miami, attention, beaucoup de buts, beaucoup de.
Alors c'est contre des défenses qui sont pas du niveau de rigueur des défenses européennes souvent, mais il faut mettre les buts quand même.
Ouais.
Et sinon ce sera aussi la dernière de Luis Suarez avec l'Uruguay.
Mm-hmm.
Donc attention, peut-être l'effet baroud d'honneur, l'effet d'air peut transcender cette équipe dirigée par un certain Bielsa.
Qui est pas mal, je l'ai vu.
Qui veut sans doute jouer un mauvais tour à son pays natal.
Et surtout à son meilleur voisin, un peu envahissant, souvent aussi, la République
Argentine. Il y a des éléments, disons, de derby dans cette Copa América qui sont intéressants à suivre.
Et qui donnent envie de suivre la compétition, j'imagine, messieurs.
Oui,
d'avoir quand même un œil sur cette Copa América.
Non, c'est-à-dire qu'en temps normal, on aurait été heureux de veiller le soir pour voir des beaux matchs. Avec le fait d'avoir déjà trois matchs par jour assez rapprochés à l'Euro, il faudra faire des choix. Mais
surtout que ça termine en même temps. Ça se termine en même temps que l'Euro. Ouais. Mais bon, par contre, on pourra peut-être avoir quelques belles affiches au fil de la compétition.
Et puis, il y a des jours sans match à l'Euro où on pourra peut-être se rattraper avec la Copa.
Je compte sur vous, messieurs.
Bien sûr.
Je compte sur vous pour suivre aussi ou avoir un œil sur tous ces joueurs sud-américains qui... Bon, mais quand on regarde les dernières années, Argentine, Brésil, Chili. Alors l'Uruguay a gagné la dernière fois en 91. Sinon, en général, c'est Argentine et Brésil, voire Chili. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été dans Radio Foot International aujourd'hui dans cette première édition. Nous, on se retrouve dans la deuxième tout à l'heure, 23h10 heure de Paris, 21h10 en temps universel. Mais n'oubliez pas, auparavant, il y aura donc la retransmission sur RFI avec Antoine Grenier et Carlos Pizarro, notamment de cette rencontre Italie-Espagne-Italie. We'll be right back.